Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Il y a 80 ans, l'appel du 18 juin. Journée spéciale sur Bretagne 5.
Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h30, journée spéciale autour des 80 ans de l'appel du 18 juin lancé par le général de Gaulle sur les ondes de la BBC. C'était le 18 juin 1940. Alors, on n'est pas toujours d'accord sur l'horaire. Certains disent 18h, d'autres disent 22h. Mais voilà, cet appel fut fondateur pour la libération de la France. Ce matin, nous sommes au téléphone avec l'arrière-petite-fille du général de Gaulle, Nathalie de Gaulle. Bonjour.
Bonjour, comment allez-vous ?
Eh bien écoutez, ravi de vous avoir en direct ce matin dans la matinale de Bretagne 5 pour évoquer cette période du 18 juin 1940 et plus précisément les souvenirs que vous en avez eus. Par retour, évidemment, votre nom, c'est Nathalie de Gaulle, donc le général de Gaulle était votre arrière-grand-père, vous ne l'avez pas connu.
Non, tout à fait. Alors, pour vous resituer un petit peu familialement, donc le général de Gaulle a eu 3 enfants, 5 petits-enfants, et nous sommes 11 arrière-petits-enfants. Donc, c'est la troisième génération après le général de Gaulle. Donc, non, je ne l'ai pas connu, je suis né dans les années 80.
Mmh. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Nathalie de Gaulle, ces 80 ans de l'appel du 18 juin ?
Bah écoutez, on est toujours très émus, hein, évidemment, à titre personnel, avec l'héritage familial, mais également en tant que citoyenne et en tant que Française. Je suis toujours extrêmement émue lorsque j'entends cette voix, cet appel, et ces mots notamment qui caractérisent à mon sens l'essence même du gaullisme, l'honneur, le courage aussi pour le général de Gaulle, le bon sens qui se traduit chez lui par le pragmatisme, et l'intérêt supérieur de la patrie qui a structuré toute son action, qu'elle soit militaire ou politique.
Est-ce qu'on peut dire que le général de Gaulle en son temps était un rebelle ? Le mot est peut-être un peu fort.
Oh oui, je pense qu'il était un rebelle. En tout cas, quelle audace, et j'ai même envie de dire quel culot d'être allé à Londres seul ce mois de juin 1940. En fait, il a laissé, évidemment, avant de s'engager en politique, un grand héritage militaire, hein, on l'oublie souvent. C'est quelqu'un qui a beaucoup théorisé, notamment dans tout ce qui est engagement de haute intensité, combat mobile avec des chars d'assaut. C'était à l'époque assez révolutionnaire. Mmh. C'était vraiment un rebelle, en fait, qui s'est opposé à sa hiérarchie et qui avait une pensée tout à fait différente.
Il avait écrit d'ailleurs ce texte fondateur, Le fil de l'épée, qu'il avait dédicacé au départ à son supérieur, le maréchal Pétain. Voilà, c'était une autre époque.
Oui, bah le maréchal Pétain, hein, évidemment, à l'époque, dans les années, fin des années 20, dans les années 30, c'était le vainqueur de Verdun. C'était aussi le respect de la hiérarchie militaire. Donc, c'est évidemment quelqu'un qui, en son temps, avant 1940, a structuré la vision militaire de mon arrière-grand-père. Et je pense qu'en fait, la déception a été à la hauteur de l'estime qu'il lui portait avant, la déception de 1940. Et ça a probablement contribué à le façonner dans son engagement et dans cet appel du 18 juin.
Est-ce qu'à travers les souvenirs familiaux, on vous a raconté dans quel état d'esprit pouvait être le général à ce moment-là ? J'imagine qu'il a longuement pesé cette décision avant de s'engager.
Alors, je ne peux pas vous répondre précisément, en fait. Je n'ai pas connu mon arrière-grand-père. Je l'ai découvert notamment par les livres d'histoire. Plus rarement au travers d'anecdotes familiales, mais c'est vrai que ces circonstances particulières qui ont accompagné le départ de mon arrière-grand-père. Alors, mon grand-père lui-même, l'amiral Philippe de Gaulle, n'était pas présent, mmh. Donc je ne peux pas vous répondre là-dessus.
Alors, le général de Gaulle part sauver son pays, la France. Il vivait finalement la France. On a toujours dit que le général de Gaulle, c'était la France finalement.
Oui, on a toujours dit que le général de Gaulle, c'était la France. Mais alors moi, je peux vous confier en fait une anecdote personnelle. J'ai passé la majorité de ma vie à l'étranger. Et donc, en fait, s'appeler de Gaulle quand on est à l'étranger, c'est forcément parler de la France et de la place de la France dans le monde. En fait, le général de Gaulle est tellement assimilé à son pays qu'on finit naturellement par parler de la politique française, où qu'on soit dans le monde.
Justement, le général de Gaulle, il n'aimait pas tellement la politique, hein, on le rapporte, que ce soit dans sa vie militaire ou bien après dans sa vie, alors j'allais presque dire politique, c'est un pléonasme, mais en tout cas dans sa vie de président de la République, il n'aimait pas tellement la politique.
Bon, il n'aimait pas tellement la politique, sauf qu'il a quand même consacré sa vie. Enfin, je pense que c'est pas tellement qu'il n'aimait pas la politique. Je pense qu'il n'aimait pas. Enfin, il n'était pas confortable avec les partis politiques, avec les appareils et les structures politiques. Il considérait en fait que les appareils et les structures politiques étaient faits pour quelque part encourager un peu le. Enfin, ne pas renouveler les élites en fait et encourager l'intérêt personnel, alors que toute sa vie. Il s'est battu pour l'intérêt général et justement pour faire en sorte que l'individualisme ne soit pas maître. Donc voilà, à mon sens, c'était plus les partis politiques qu'il, non pas qu'il dénigrait, mais dont il se méfiait plus que la politique. La politique, il a consacré sa vie à faire de la politique pour la France.
Alors, justement, les partis politiques, Nathalie de Gaulle, à l'époque, en juin 40, abandonnent quelque part le pays. C'est là que le général décide d'entrer en scène, on pourrait le dire comme ça. Ça n'a pas été facile, finalement, parce qu'il se retrouvait seul à Londres, avec peu d'argent, avec, somme toute, une vie relativement spartiate. Il a fallu convaincre. Est-ce que ça correspondait, là encore, à travers ce qu'on a pu vous raconter de votre arrière-grand-père, à son tempérament de vaincre, finalement, l'impossible ?
Oui, je pense que ça correspond exactement à son tempérament. Moi, j'ai envie de vous lire un texte qui a été publié par le général de Gaulle en fait en 1941 via la BBC, qui est un texte qui, à mon avis, illustre exactement son état d'esprit et son audace et ce qu'il a fait, ce qui était quand même quelque chose d'incroyable. Donc voilà le texte. « Je suis un Français libre, je crois en Dieu et en l'avenir de ma patrie. Je ne suis l'homme de personne. » J'ai une mission et je n'en ai qu'une, celle de poursuivre la lutte pour la libération de mon pays. Je déclare solennellement que je ne suis attaché à aucun parti politique, ni lié à aucune ni aucun politicien, quel qu'il soit, ni de droite, ni du centre, ni de la gauche. Je n'ai qu'un seul but, délivrer la France. Alors, je trouve que c'est quand même un texte extraordinaire et je pense qu'il était complètement habité par sa mission. Et d'ailleurs, il le dit, je n'ai qu'un seul but, délivrer la France. Donc à la limite pour lui, se retrouver seul sans sa famille et sans argent à Londres, effectivement, c'était les conditions matérielles qui l'entouraient, mais son but était tellement évident, celui de poursuivre la lutte pour son pays, que ça ne l'a pas empêché de faire ce qu'il a accompli par la suite.
Alors, d'autant qu'il part à Londres seul ou quasiment seul, sans forcément avoir l'espoir d'être rejoint par un grand nombre, il va devoir batailler aussi avec Churchill, entre autres, pour obtenir cet accès à la BBC et lancer cet appel. Quand on écoute cet appel aujourd'hui, alors aujourd'hui c'est l'appel du 22 juin, puisque celui du 18 n'a pas été conservé, ça reste quand même un texte, là aussi, fondateur. La flamme de la résistance ne s'éteint pas, ne s'éteindra jamais.
Oui, bien sûr. Je pense que ce sont les phrases que tous les Français ont en tête. Hein. La flamme de la résistance ne s'éteindra jamais. Et à nouveau, pour moi, ces trois mots, donc l'honneur, le bon sens et l'intérêt supérieur de la patrie. Enfin, ça a structuré vraiment toute son action. Le général de Gaulle était un homme d'action pour lequel il ne fallait jamais renoncer à rien. Hein, notamment, il fallait pas renoncer au rang de la France. Dans les domaines diplomatiques, militaires ou économiques, c'est quelqu'un qui allait toujours conjuguer la liberté économique avec le progrès social et pour lequel il ne fallait jamais abandonner l'espérance. Hein. Pour De Gaulle, c'est vraiment cette fibre patriotique qui vibrait et qui continue, à mon avis, à vibrer en chacun d'entre nous quand on écoute cet appel.
Alors, on dit que le général ne transigeait pas, mais finalement, il rassemblait par les mots déjà. C'était un amoureux des mots, le général De Gaulle.
Ah oui, c'était un amoureux des mots, c'était quelqu'un de très littéraire, qui a écrit évidemment de nombreux ouvrages hein, qu'on peut lire, qui écrivait des poèmes, des pièces de théâtre quand il était jeune, un grand amoureux de... Il a été beaucoup façonné par Henri Bergson, par Chateaubriand, par Barrès, un grand amoureux de la littérature française. Et Chateaubriand, oui, vous qui êtes basé en Bretagne, vous êtes, j'imagine, pas très loin du château de Combourg. Mémoire d'outre-tombe ont vraiment beaucoup marqué le général de Gaulle dans sa jeunesse.
Alors, on le disait aussi, le général de Gaulle, il avait une haute idée de la France, bien sûr, et de lui-même aussi. Alors, on lui prête cette phrase « je serai pape ou je serai président de la République ». Est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est vrai ?
Écoutez, je ne peux pas vous répondre. J'aurais envie de vous dire que c'est une légende. Enfin, il avait une autre opinion de lui-même, oui. Enfin, c'était un être exceptionnel, de toute façon. Je pense que tout le monde peut s'accorder là-dessus. Mais plus qu'avoir une autre opinion de lui-même, encore une fois, je pense sincèrement qu'il était habité par sa mission, et sa mission, c'était la France. C'était rendre la grandeur à la France, l'imposer dans le concert des nations. Et on me dit souvent, mais alors finalement, quel héritage, en fait, je ne sais pas si c'était une des questions que vous voulez me poser.
Oui, tout à fait, mais vous pouvez anticiper.
Ah oui, alors je ne veux pas dérouler avant l'interview, mais l'héritage du général de Gaulle, il est quand même immense. Hein. Quotidiennement, en fait, chaque Français vit avec cet héritage politique, économique et social qui a été laissé. Alors, je ne parle même pas des institutions de la Ve République, hein, évidemment, qui sont celles dans lesquelles nous vivons tous, mais ne serait-ce qu'en termes de politique sociale, et donc pour les femmes, par exemple, le droit de vote, la modification du code civil pour obtenir les mêmes droits que les hommes, la pilule contraceptive, toutes les avancées pour les salariés avec la sécurité sociale en 1945, l'intéressement, la participation. En 59, on y revient d'ailleurs maintenant, actuellement, c'est cette fameuse troisième voie gaullienne entre le capitalisme et le socialisme, et même pour rester sur des réalisations économiques et industrielles, parce que on oublie en fait que le général de Gaulle avait aussi une vision industrielle pour la France. Il a permis d'ouvrir les entreprises françaises au marché commun européen. Là aussi, on a souvent dit que le général était anti-européen. C'est faux. Il était pour l'Europe des nations, mais il était tout à fait pro-européen. Il a également permis le développement des industries exportatrices de la France, hein, le secteur du luxe, de la grande distribution, tout ce qui est développement de la filière nucléaire, l'aéronautique avec la conception du Concorde, le TGV aussi. Enfin, quand vous prenez le TGV, c'est un concept qui est né en 1965, donc qui a été favorisé par le général de Gaulle. Mais ça, il y a tellement de choses. On pourrait citer le quartier des affaires de la défense. Ça aussi, c'était une vision du général de Gaulle. La maison de la radio, on s'exprime aujourd'hui sur les ondes de la radio. Enfin, il y a un héritage en fait qui est incroyable, qui est immense, qui est quotidien dans toute, même dans les domaines, évidemment militaires. On en parlait tout à l'heure. Et puis bien évidemment dans l'héritage géopolitique, l'indépendance nucléaire de la France, son siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, la réconciliation franco-allemande et l'axe franco-allemand. Enfin, voilà, c'est un peu une énumération, mais le destin français, à mon avis, aurait été complètement différent si le général de Gaulle n'avait pas été là. Et on vit quotidiennement avec son héritage tous les jours.
Nathalie de Gaulle, vous avez énuméré effectivement toutes ces grandes réalisations du général, tant du point de vue politique que géopolitique. La voix de la France, c'était aussi le général de Gaulle. Quand le général de Gaulle s'exprimait, on l'écoutait. Des fois, il n'était pas toujours content avec, par exemple, même les alliés, non. Les Américains. On se souvient qu'à la toute fin de cette Seconde Guerre mondiale, il a imposé que la France reste maître chez elle, finalement.
Oui. Enfin, pour lui, vraiment, l'indépendance française était le maître mot. Je pense que c'était quelqu'un qui était épris de liberté. Alors, évidemment, il aimait l'ordre, mais c'était quand même un homme audacieux et libre, vraiment la France libre. Hein, c'est exactement ça, la France libre. Pour lui, c'était l'idéal que la France devait réaliser. Et donc, l'âme gode, pour lui, en tout cas, une mise sous tutelle de la France par les États-Unis aurait été absolument insupportable. C'était inconcevable et je pense qu'en fait, on le lui doit. Encore une fois, quelque part, c'était un espèce de... Évidemment, il y a eu beaucoup de résistants, mais je ne veux pas dire un coup de bluff, parce que je ne veux pas vulgariser, mais le fait de se retrouver pays vainqueur, assis comme membre permanent et au siège du Conseil de sécurité de l'ONU, c'était quand même un tour de force, hein, quand on se souvient de Pétain et de mai et juin 1940. Mais il avait vraiment cette vision. Pour lui, de toute façon, la France devait continuer le combat, la France devait être libre, libre de ses engagements et libre de ses actions.
Alors Nathalie de Gaulle, l'appel du 18 juin, ça s'est pas fait non plus très facilement, hein. On l'évoquait en commençant cet entretien. Le général de Gaulle arrive à Londres, il lui faut convaincre Churchill de pouvoir avoir accès à la radio. Or, le général de Gaulle à l'époque n'est, pardonnez-moi du terme, mais pour la Grande-Bretagne, qu'un obscur sous-secrétaire d'État à la guerre. Tout l'enjeu est de convaincre finalement, et il va y arriver.
Oui, il va y arriver. Alors, il avait rencontré Churchill, en fait, quelques semaines, me semble-t-il, avant son arrivée le 17 juin à Londres. Et il lui avait fait apparemment forte impression. Donc, il a eu cette chance, en fait, d'avoir pu rencontrer Churchill quelques semaines avant. Mais oui, effectivement, il arrive, entre guillemets, petit général deux étoiles, à moitié inconnu, mais... Encore une fois, je pense qu'il était tellement habité par sa mission et il en était persuadé, en fait. Il avait cette foi et cette flamme en lui ce charisme. Alors, on a beaucoup parlé de sa taille, mais apparemment, au-delà de sa grande taille, c'était vraiment le charisme et la présence, en fait. Il imposait une vraie présence. Et je pense que tous les gens, et notamment les Britanniques qui l'ont rencontré, ont ressenti cette présence et cette foi qu'il portait en lui.
Les rapports n'avaient pas été simples avec Churchill. Il y a eu des ruptures, des accords, puis des ruptures à nouveau. Et finalement, le général de Gaulle, à la fin de la guerre, parlera sur la radio de Brazzaville et un peu moins sur Londres.
Oui, alors de toute façon, bon, la vision du général de Gaulle pour la poursuite du combat français pendant cette guerre était évidemment de pouvoir le faire grâce aux anciennes colonies. Donc naturellement, en fait, il comptait sur les colonies pour pouvoir poursuivre le combat. En tout cas, je pense que c'est facile, enfin, rétrospectivement de parler, mais on doit évidemment une fière chandelle à nos amis britanniques pour avoir accueilli le général de Gaulle à Londres et pour lui avoir permis de s'exprimer.
On parlait tout à l'heure du général de Gaulle et des mots, c'était aussi les mots de rassemblement. Le général de Gaulle va rassembler à travers ses messages à la radio de Londres aussi les différents réseaux de résistance, bien au-delà finalement des opinions politiques, des sensibilités des uns et des autres. Et il arrivera à créer cette union de la résistance si nécessaire pour libérer la France à l'époque.
Oui, alors à l'époque évidemment on ne parlait pas encore, on ne parlait pas de pacte républicain, mais si vous voulez, il avait quand même cette conscience aiguë de l'importance de l'union des forces et de l'union de tous les Français pour avoir ce combat, et puis surtout pour obtenir cette victoire finale. C'était un fin, j'aime pas forcément ce terme, un fin politique, mais enfin en tout cas c'est quelqu'un qui comprenait bien à la nature humaine et qui savait comment parler aux hommes, à ces hommes et aux femmes d'ailleurs, parce qu'il y avait des combattantes françaises, il ne faut pas l'oublier. Il a permis aux femmes aussi de combattre. Hein. Il a fait quand même beaucoup, moi qui suis une femme, il a fait quand même beaucoup pour le droit des femmes. Mais en tout cas, donc il savait parler aux hommes et grâce à son charisme, il savait les convaincre afin de s'unir pour servir une cause commune et un intérêt supérieur qui était celui de la patrie.
On parlait tout à l'heure de l'héritage du général de Gaulle. On va y revenir, Nathalie de Gaulle, mais il y avait aussi cette acuité, on pourrait peut-être le dire comme ça, du général de Gaulle, à sentir les événements. Il se trompait rarement, finalement.
Oui, il avait une immense culture historique. On en a parlé tout à l'heure, mais une grande culture littéraire, mais une grande culture historique. Une culture militaire également, donc il savait que l'histoire en fait est un éternel recommencement et qu'il fallait tirer des leçons passées, des visions pour l'avenir. Et donc oui, il était très certainement visionnaire, mais aussi il le tenait de sa grande culture, de sa grande culture littéraire et historique. Alors... C'était une culture familiale d'ailleurs, parce que son père lui-même était un homme extrêmement cultivé, Henri de Gaulle, qui enseignait et qui avait un amour de la France et de l'histoire française et qu'il a transmis à son fils.
J'allais y venir à l'histoire familiale. Le général de Gaulle ne se livrait pas beaucoup. Le général de Gaulle était très avare de tout ce qui concernait sa vie privée. Pourtant, il se mettra en scène sur quelques photos que l'on voit, qui sont restées dans l'histoire finalement, avec Yvonne, sa femme, son épouse, qui le rejoint à Londres. Et ces quelques photos qui seront voulues par Churchill pour faire connaître le général de Gaulle. Et on ne le sent pas très à l'aise sur ces photos.
Oui. Non, je pense qu'en effet, c'est vrai que nous sommes une famille extrêmement discrète, hein, et je dirais peu démonstrative. En tout cas, c'est une sorte de tradition familiale, la discrétion, le fait de ne pas livrer sa vie privée. Alors après, on a vu par la suite de sa carrière politique, si je puis dire, qu'il savait parfaitement maîtriser les outils de communication, hein, notamment l'image et évidemment ses discours avec les mots dont tout le monde se souvient. Mais oui, enfin, en tout cas, en 1940, l'idée n'était pas de faire un one-man show, hein, si vous me passez l'expression. L'idée était vraiment c'était un chef militaire, hein. C'était un chef militaire qui était là pour faire gagner la France, pour continuer le combat. Il n'était pas là du tout pour se mettre en scène. Et je pense que c'était assez éloigné, en effet, de sa culture familiale et de son éducation.
Alors, vous parliez des outils de communication. La radio sera l'outil, là encore, oui, fondateur pour le général. À chaque fois que la France, lorsqu'il sera plus tard président de la République, traversera des crises, le général choisira plutôt la radio que la télévision. Mais il savait bien maîtriser la télévision aussi. on se souvient, en tout cas, peut-être pas pour les plus jeunes, mais les archives existent sur l'INA, entre autres, de ces conférences de presse, où le général de Gaulle aimait bien se mettre en scène, il aimait bien ce contact.
Oui, si vous voulez, pour lui, le lien avec les Français, et avec tous les Français, était absolument primordial. Donc il avait bien compris à l'époque que la télévision était un moyen d'avoir... quelque part de pénétrer en fait l'intimité des foyers français et d'être présent dans le salon de tous les Français. Donc il avait évidemment il avait compris tout cela et ce lien était tellement important et fondamental pour lui hein, quand même grâce à lui on lui doit le suffrage universel et on lui doit également l'usage des référendums. Donc c'est vraiment un président, un homme en fait qui se confrontait à l'opinion publique, à l'opinion de son peuple, de tous les Français. Donc la télévision étant entrée dans le quotidien et dans l'intimité des Français, c'était un vecteur qui lui permettait à lui également d'entrer dans ce quotidien et cette intimité.
Le référendum, justement, en 1969, le référendum le désavoue, le général de Gaulle part, il quitte la scène, oui. Simplement par un communiqué. C'était aussi un aspect de l'homme de dire « voilà, on ne veut plus de moi, je pars ».
Oui, il a très certainement considéré que le lien était non pas rompu, mais en tout cas était plus distendu avec le peuple français. Et bon, il faut pas oublier qu'en 69, le général de Gaulle avait 79 ans. Il est d'ailleurs mort un an après. J'imagine qu'il a considéré rester, mais en même temps, il avait déjà tellement fait, si je puis dire, pour la France et pour le peuple français. Il a dû percevoir qu'il était temps de partir et que son devoir envers la France était accompli.
Et puis il y avait eu la crise de 68, la jeunesse qui ne comprenait plus le général. Et peut-être que le général n'entendait plus la jeunesse non plus, qui avait beaucoup changé hein, depuis le début de son mandat en 58.
Oui, alors bon, il faut pas oublier que 1968 c'était un phénomène mondial, hein, qui était aux États-Unis, qui était en Europe, qui évidemment a touché la France. Ça n'était pas particulier à la France, hein, les 68. Après, effectivement, le général de Gaulle était au pouvoir depuis plus de dix ans. Il était omniprésent dans la scène politique française depuis près de 30 ans. De toute façon, la vie est ainsi, hein, les générations sont ainsi faites. À un moment, on a envie de nouveau, on a envie de voir quelque chose. Et effectivement, il y avait une profonde transformation de la société à cette époque-là. En tout cas, bon, enfin, j'ai toujours, effectivement, mes 68, ça a été le début de la fin, si je puis dire, pour le mandat présidentiel, le deuxième mandat présidentiel de mon arrière-grand-père. Mais on ne peut vraiment pas résumer la vie et l'œuvre du général de Gaulle par mai 68.
Non. Alors, l'héritage, aujourd'hui, Nathalie de Gaulle, votre arrière-grand-père a laissé un héritage considérable. On en a longuement parlé au cours de cet entretien. Et puis, aujourd'hui, tout le monde se revendique du général de Gaulle, alors quels que soient les partis politiques, quelles que soient les sensibilités. Est-ce que ça vous irrite ?
Alors, écoutez, déjà moi aussi, je suis gaulliste, donc je suis d'accord avec toutes ces personnes. Non, ça ne mérite pas du tout, parce que je pense que le général de Gaulle est en quelque sorte tombé dans le domaine public, si vous me passez l'expression. Et finalement, ses idées et sa pensée n'appartiennent à personne, mais elles appartiennent à tout le monde à la fois. Général de Gaulle, en fait, incarne la France, hein, c'est cette certaine idée de la France. Mais plus que le fait qu'on se revendique ou non du gaullisme, je relisais récemment une interview de l'actuel chef d'état-major des armées, donc un chef militaire qui est le général Thierry Burkhard, et qui décrivait le chef de la manière suivante. Alors pour lui, le chef, c'est celui qui porte la force morale, c'est celui qui a la foi, et surtout c'est celui qui communique son enthousiasme et qui donne envie de gagner. En fait, il me semble surtout que les Français ont aujourd'hui, à tort ou à raison d'ailleurs, le sentiment que la France ne gagne plus comme avant. En tout cas, il y a certainement une nostalgie de la grandeur de la France, de celle qui a résisté, de celle qui est assise au Conseil de sécurité des Nations Unies, à la table des vainqueurs. Et donc, du coup, la figure du général de Gaulle revient et prend tout son sens dans un moment qui est peut-être un moment où on se sent moins armé pour gagner des batailles. Après, moi, il me semble quand même que la France a énormément d'atouts, hein, et notamment grâce à l'héritage du général de Gaulle. on reste quand même la sixième puissance économique mondiale. On a toujours cette voix singulière dans le concert des nations, du fait justement de notre indépendance nucléaire, de notre siège aux Nations Unies, de notre réseau diplomatique. On a des entreprises d'envergure mondiale, on possède le deuxième territoire maritime mondial derrière les États-Unis, on a la première agriculture d'Europe. Enfin, on n'a pas à rougir, en fait. Et il me semble que plus que parler d'hommes politiques ou de femmes politiques qui se revendiquent du gaullisme, en fait, il faut se rappeler les lignes de force qui étaient celles du général de Gaulle, à savoir de ne jamais abandonner l'espérance et d'œuvrer pour l'intérêt général. À mon avis, c'est vraiment ce qu'il faut qu'on retienne à notre époque actuelle.
Donc, l'héritage du général, l'espérance et cette culture du chef, j'allais presque dire du guide, parce que c'est une forme de guide, le général de Gaulle, pour la nation, pour la France, pour les Françaises et les Français.
Oui, c'était effectivement une sorte de guide, celui pour lequel il ne fallait jamais renoncer à rien. Il a cette figure effectivement un peu mythique, hein, de père de la nation. Et je pense qu'on traverse une époque qui est compliquée, où les équilibres géopolitiques sont en train de se renverser, en tout cas de se modifier, avec les nouvelles technologies, certaines ruptures en fait qui apparaissent dans notre vie quotidienne, hein, presque dans notre vie de salarié, dans notre vie de personnes qui travaillent, de Français, notre vie de citoyen. Et donc on a besoin de repères, on a besoin de se souvenir de cette grandeur et de ce qu'a été la France. Et à mon sens, c'est ça aussi l'héritage du général de Gaulle, en fait. Moi, quand j'ai de très jeunes gens qui viennent me voir et qui me parlent du général de Gaulle, j'ai envie de leur dire, en fait, que l'engagement, c'est probablement la chose la plus importante pour structurer une vie. Hein. C'est une des leçons à tirer, hein, que ce soit un engagement pour sa famille, pour son pays, mais un engagement pour quelque chose qui vous dépasse, c'est un fil rouge à suivre, en fait, tout au long de sa vie. Je leur dis également que toute la pensée et la vie du général de Gaulle ont été structurées autour de l'action et surtout du courage. Et donc effectivement, on vit un monde complexe, mais c'est justement dans ces moments d'incertitude qu'il faut agir et qu'il faut essayer de trouver des solutions pour son pays. Et puis évidemment pour soi-même, il faut être courageux. Donc vraiment, oui, le courage, voilà, on revient à ça, à ces trois mots, à l'honneur, le bon sens et l'intérêt supérieur, donc l'intérêt général.
Eh bien, Nathalie de Gaulle, juste avant de nous quitter, car le temps tourne même un 18 juin, j'aurais voulu évoquer aussi le général de Gaulle, qui avait un certain sens de l'humour quand même. On se souvient de quelques-uns de ses aphorismes, quelques-unes de ses sorties lors de ses conférences de presse. Et est-ce que vous avez, dans la famille, est-ce qu'on vous a raconté ce côté un peu léger du général qu'on n'avait pas l'habitude finalement d'imaginer lorsqu'on le voyait à la télévision ?
Ah oui, c'est vrai qu'on a souvent dépeint le général et sa femme comme des êtres extrêmement sérieux et réservés. Il n'en était rien. Mon arrière-grand-père était extrêmement drôle. Il était très proche, hein, de ses petits-enfants, très affectueux avec eux. Il avait beaucoup d'humour. Enfin, moi, j'ai même des photos chez moi, donc des photos familiales personnelles du général de Gaulle riant à table avec sa famille. C'était quelqu'un qui était très proche de sa famille, très affectueux et drôle. Mais sa femme également, elle avait beaucoup d'humour, mon arrière-grand-mère, Yvonne de Gaulle. Quelqu'un d'être assez drôle.
Qui était très réservé, on ne la voyait pas. Alors, celle qu'on surnommait, pardonnez-moi, Tante Yvonne, les Français s'étaient aussi rapprochés par ce surnom de Gaulle, par sa femme finalement, Tante Yvonne.
Ben oui, Tante Yvonne était née donc en 1900. Hein. C'était une femme qui avait reçu une éducation extrêmement déjà très catholique, avec la bourgeoisie du nord de la France, donc assez conservatrice. Après, je pense qu'elle a été très amoureuse de mon arrière-grand-père et qu'elle l'a aidée, en fait. Enfin, je pense que mon arrière-grand-père n'aurait Je ne sais pas si on peut dire qu'il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait s'il n'avait pas été là, parce que il était tellement habité par sa mission qu'à mon sens il l'aurait accompli quoi qu'il advienne. Mmh. Enfin, elle a très certainement aidé mon arrière-grand-père à accomplir sa mission et son devoir. C'est une certitude. En étant là à ses côtés et en étant un soutien indéfectible pour lui et pour la France.
Voilà, toujours la France qui revient à chaque fois. Merci Nathalie De Gaulle d'avoir été avec nous en direct ce 18 juin pour évoquer la mémoire et l'action de votre arrière-grand-père. Vous êtes donc l'arrière-petite-fille du général De Gaulle. Le nom De Gaulle, quand vous rencontrez quelqu'un, j'imagine que ça fait tout de suite son effet.
Oui, oui, je vous le confirme. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci.
Merci infiniment et belle journée.
Belle journée à vous. Au revoir.
Journée spéciale sur Bretagne 5. Il y a 80 ans, l'appel du 18 juin.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.